Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, est-il déraisonnable d'être optimiste ? La France résiste face à un contexte morose, pouvait-on lire il y a quelques jours dans le journal Le Monde. En 2019, la croissance devrait atteindre 1,3% grâce à des gains de pouvoir d'achat les plus élevés depuis 2007, ajoute le quotidien. Nous pourrions en citer bien d'autres, des chiffres, des statistiques qui nous disent que tout ne va pas si mal. La dernière édition du portrait social de la France dressé par l'INSEE en regorge. Et pourtant, leur lecture suscite un étrange sentiment de décalage. Partout, beaucoup s'expriment le malaise, la colère, la souffrance, la peur face à l'avenir, le sentiment que le présent nous emmène vers du pire. On ne vit pas comme une statistique et si l'on s'intéresse aux chiffres, alors comment évacuer, par exemple, ceux de la hausse des températures, de la disparition des espèces, des objectifs sans cesse repoussés alors qu'il est déjà bien tard. Les optimistes chez nous ont bien du mérite, les pessimistes, bien des excuses. Cette phrase est de vous, André Comte-Sponville, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Votre dernier livre, dont est issue cette citation sur laquelle nous allons évidemment revenir, est un recueil de chroniques, de propos, écrits ces dernières années, souvent inspirés par l'actualité, au philosophe que vous êtes. Contre la peur et cent autres propos, c'est aux éditions Albin Michel. Alexia Soyeux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la créatrice productrice du podcast Présage, qui propose de longs entretiens avec des personnalités qui travaillent, qui réfléchissent autour de la question de l'effondrement. Et Hervé Lebras, bonsoir.
Bonsoir.
Démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS, votre dernier livre, Se sentir mal dans une France qui va bien, la société paradoxale, est publié aux éditions de l'Aube. Hervé Lebras, ce livre a été publié un peu avant l'été. Vous commencez par citer ces baromètres européens qui, année après année, nous montrent que les Français sont particulièrement pessimistes et vous cherchez à comprendre pourquoi. Dans un premier temps, vous allez explorer toutes les causes auxquelles on pense spontanément et vous n'y trouvez pas le coupable.
Non, mais enfin, j'ai des suspicions envers un certain nombre de coupables. Vous avez raison de dire que ce qui m'a frappé, on peut toujours penser, c'est le verre d'eau ou de vin à moitié plein ou à moitié vide. On peut toujours penser que les choses vont mal ou que les choses vont bien, mais on a besoin de termes de comparaison. Donc ce que j'ai fait, c'est de regarder les opinions des Français par rapport aux 27 autres pays de l'Union européenne sur un grand nombre de sujets. Il se trouve qu'il y a des sondages d'opinion qui s'appellent Eurobaromètre, qui posent les mêmes questions, bon, avec des aléas de traduction, dans les 28 pays. Et à chaque fois, ou presque, sur chaque question, les Français sont parmi les plus pessimistes. Parfois, ils sont même les plus pessimistes des 28. Et donc, j'ai confronté ces opinions très pessimistes à ce qui se passe, alors je dirais pas réellement, mais un certain nombre de faits chiffrables dans ces pays, le niveau d'inégalité, de pauvreté, la part de dépenses sociales, l'espérance de vie. Bon, il y a quand même un grand nombre d'indicateurs et on s'aperçoit que la France est plutôt, je dirais, dans le premier tiers des pays qui vont le mieux. Donc, c'est le pays où il y a le plus fort décalage. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, après avoir constaté le décalage, il faut que je cherche à comprendre la raison de ce décalage. Si je la comprenais, je pense que peut-être que d'autres agiraient en conséquence. Mais, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup de mal. Les pistes, les coupables.
Oui, vous avancez possibles. Des explications tout de même, qui reposent, elles aussi, d'ailleurs, sur des éléments tangible, voilà. Ce que les Français jugent, d'après ce que, voilà, ce que vous trouvez, ce sont davantage, en fait, leurs perspectives d'avenir.
Absolument.
Ce qui a changé fondamentalement, c'est que l'on pense que l'on vivra moins bien demain et encore moins bien après-demain. C'est d'ailleurs ce qui s'exprime très clairement en ce moment dans le conflit autour de la réforme des retraites.
Oui, je suis d'accord, mais la question, c'est pourquoi pense-t-on cela, si vous voulez. C'est qui est la question principale, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la structure de la société française qui pousse à, le contraire du titre de votre émission, au pessimisme. Mmh. Et je pense, une des pistes est à chercher. Du côté de, au fond, il y a deux pistes qui se rejoignent, qui sont les questions d'ascension sociale, donc on entre sur les perspectives, et puis les questions d'éducation. On a, sans s'en rendre compte, au fond, on a changé de monde au cours des 30 dernières années. en termes d'éducation, souvent je donne quatre chiffres. En 1968, vous aviez 6% de personnes qui étaient classées comme cadres et professions libérales et 6% de personnes qui avaient poursuivi dans la population active des études après le bac. Donc 6 et 6, c'était pas les mêmes, mais si vous étiez dans les 6% qui avaient fait des études supérieures, vous aviez une bonne chance d'entrer dans la catégorie cadres et professions libérales. Maintenant, il y a 16% de personnes qui appartiennent à la catégorie supérieure, cadre et profession libérale. Donc 6, 16, il y a un gros progrès, on devrait être content. Mais il y a 36% des personnes qui ont fait des études après le bac. Donc 16 et 36. Donc désormais, le diplôme ne paye plus.
Voilà. Et le diplôme n'est plus efficace.
Il n'est plus,
il
n'est plus une garantie.
Ce qui pose un problème dans un système.
Alors, en quoi, je dirais, c'est un problème qu'on retrouve dans d'autres pays. Mais dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, il y a eu une assez forte croissance des études, mais il y a eu aussi une forte croissance des travaux, des postes de compétences. Donc, en France, il n'y a pas eu cette croissance. Et une fois, je l'ai dit d'ailleurs au ministère des Finances à un auditoire de chefs d'entreprise qui ont failli me lyncher, mais la réalité est que on n'a pas changé l'appareil productif en fonction du changement de l'éducation. Et puis, il y a autre chose, c'est que ça crée une concurrence entre les diplômés. En cas de concurrence, quand vous avez deux personnes diplômées qui arrivent pour demander, face à une demande d'emploi, si elles ont le même diplôme, c'est d'autres éléments qui vont jouer. Et ces éléments, en France, ça s'appelle le réseau, notamment, ou la situation sociale de la famille. Et donc, pour les classes populaires, c'est un sentiment qu'elles, malgré le diplôme, elles ne pourront pas progresser. Donc on atteint la question de l'ascension sociale. Et dans mon livre, j'ai cherché à montrer qu'effectivement, elle n'est pas terminée, mais elle est ralentie. Je dirais même elle est millimétrique. On progresse un peu, mais on ne progresse plus, on ne fait plus un saut important de catégorie sociale.
André Comte-Sponville, j'ai cité votre livre « Contre la peur et sans autres propos » dans le texte qui donne son titre au recueil et qui a été écrit ce texte précisément en octobre 2010. Vous écrivez « Le pessimisme n'est pas le malheur, il porte sur l'avenir plus que sur le présent, il exprime plus une inquiétude qu'une souffrance. Ce qui s'exprime aujourd'hui en France, c'est une inquiétude ou c'est une souffrance ?
Il peut y avoir les deux, hein, ça n'est pas incompatible, mais ce que disait Hervé Le Braz, qu'il évoquait, c'est un paradoxe, mais ce n'est pas une contradiction. Le fait qu'on vive plutôt mieux en France qu'ailleurs, et qu'on soit plutôt plus pessimiste en France qu'ailleurs, ça veut dire que les Français ont le sentiment qu'ils ont beaucoup à perdre. Mais effectivement, un pays où tout va mal, au fond, on peut se dire que ça ne peut guère qu'aller mieux demain. C'est parce que les Français ont le sentiment de vivre dans un pays plutôt privilégié en quelque chose, que la perspective de perdre, je dirais pas ses privilèges, mais cette espèce de confort relatif, inégal, mais qui existe malgré tout, peut les angoisser légitimement. J'ajouterais autre chose pour expliquer cette singularité française, parce que Hervé Le Braz a évidemment raison dans son constat, c'est que les Français ont un peu la nostalgie de leur grandeur passée. La France a été une grande puissance au XVIIIe siècle, la plus grande puissance, la plus rayonnante d'un point de vue culturel. C'est pas le cas de la Suède, c'est pas le cas de l'Italie, et finalement, vous voyez. Et donc, et d'autant que il y a longtemps qu'on n'est plus une grande puissance, mais le général de Gaulle a réussi à nous faire croire pendant quelques décennies qu'on l'était encore. Et tout d'un coup, les Français découvrent que leur petit pays est un pays comme les autres. Et comme par ailleurs, troisième point pour expliquer ce pessimisme singulier des Français, nous vivons dans un pays où traditionnellement, on a beaucoup demandé à l'État. L'État français est beaucoup plus ancien qu'en Allemagne ou en Italie, par exemple. Il a été fort et là, il y a une conjonction entre la tradition monarchique, monarchie absolue sous Louis XIV, la tradition jacobine. Et puis la tradition politique, notamment à gauche, où on a considéré que l'État pouvait presque tout. Au fond, peut-être la France est le seul pays où quand un homme de gauche, Lionel Jospin à l'époque, disait, mais il y a 15 ou 20 ans, l'État ne peut pas tout. Vous vous souvenez, Hervé Le Braz, ça a fait scandale. C'est extraordinaire, parce qu'au fond, il est évident que l'État ne peut pas
bien
tout.
Sûr.
Dans la plupart des pays du monde, ça aurait passé pour une platitude, et en France, ça a été un scandale, surtout à gauche. Et toutes ces raisons ensemble, mais s'ajoutant à celles qu'évoquait Hervé Le Braz, expliquent en effet ce paradoxe, mais qui n'est pas une contradiction. La France est l'un des pays où l'on vit le mieux, ou le moins mal, mais au fond, beaucoup mieux il faut le dire aussi, qu'il y a 30 ou 40 ans, parce que le paradoxe est accentué par le fait que non seulement on vit mieux en France que dans la plupart des pays du monde, et même que dans beaucoup de pays d'Europe, mais qu'on vit beaucoup mieux en France, au moins matériellement aujourd'hui, que dans ma jeunesse. Moi j'ai 67 ans, je lisais dans un livre de l'économiste Daniel Cohen, que le niveau de vie en France a doublé si on compare ce qu'il est aujourd'hui à ce qu'il était dans les années 1970, donc quand j'étais étudiant, doublé, vous voyez. Donc, on n'a jamais vécu aussi bien, on n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais été aussi bien logé, aussi bien nourri, aussi bien soigné, et beaucoup de gens pensent que c'était mieux avant. Alors là, pour le coup, c'est une véritable...
Ou que ce sera moins bien demain.
Mais quand on pense que c'était mieux avant, à tort, on y reviendra, on a tendance à prolonger dans l'avenir cette espèce de dégradation qu'on croit sottement avoir constatée, et donc penser que ça sera pire demain. Moi, ce que je crois, c'est qu'avant, c'était pas mieux, c'était pire, mais attention, ça ne garantit pas que demain, ça ne soit pas pire qu'aujourd'hui. Ce sont deux questions parfaitement différentes.
Et parmi les raisons que l'on peut avoir d'être inquiet, il y a évidemment une question qui dépasse très largement la France, c'est le dérèglement climatique. Et là, pour le coup, les chiffres et la perception nous disent la même chose. Alexia Soyeux, vous produisez donc depuis mars 2018 le podcast Présage. Nous allons en parler, bien sûr. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un court extrait de l'un de vos podcasts pour que l'on en saisisse l'esprit. Il s'agit du tout début d'un entretien avec Pablo Servigne.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Pablo Servigne. Pablo Servigne est chercheur indépendant. Il est à l'origine avec Raphaël Stevens du terme de collapsologie, ce domaine de recherche interdisciplinaire qui étudie l'effondrement global de notre civilisation industrielle et ce qui pourrait lui succéder.
On baigne dans une odeur de gaz et on ne sait pas d'où viendra l'étincelle.
Alexia Soyeux, est-il possible de ne pas être absolument pessimiste lorsque l'on s'intéresse, comme vous, à l'effondrement ?
Alors, en fait, je suis pas sûre, après avoir pas mal réfléchi à cette question de l'optimisme ou du pessimisme, que ça soit réellement encore pertinent de se poser cette question dans ces termes. Je pense que désormais, il faut être assez lucide face au constat qui s'impose à nous, au constat scientifique, au constat de la réalité sociale aussi, telle qu'elle est aujourd'hui en France et dans le monde. Et... c'est pas parce qu'on est lucide et conscient de ce qui risque d'arriver qu'on doit perdre toute forme d'enthousiasme. Donc moi, je parle plutôt d'enthousiasme dans l'action et dans la lutte, quoi.
Hervé Le Bras, les jeunes, et ça n'est pas illogique d'ailleurs, expriment particulièrement cette peur de l'avenir dont on parlait. Or, ce sont les jeunes, beaucoup, qui se sont saisis de cette question du climat à travers des marches, des mouvements que l'on a pu observer toute l'année.
Oui, c'est naturel, hein, puisque ils sont inquiets d'abord des questions de dette. Ils se disent, mais s'il y a une dette et que nos parents la payent pas, ça sera pour nous. Et puis, ils voient bien, et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est que l'état de la planète est inquiétant. Au début, si vous voulez, j'étais un peu méfiant sur les questions de climat. Le climat a souvent changé. Au fond, le succès de l'homme, de l'Homo sapiens, c'est sa capacité d'adaptation. C'est un paléontologue, Pascal Pic, le dit très bien. Il dit au fond, les primates, c'était une famille qui était assez mal partie. Ils restaient dans leur forêt, là, les gorilles, les chimpanzés. Et puis l'homme, tout d'un coup, est sorti de la forêt, puis s'est mis à s'adapter à des tas au froid, à l'altitude, à la mer. Et c'est une réussite formidable. C'est le seul primate qui a au fond réussi. Et puis, quand j'ai vu, dans ma jeunesse, je collectionnais les insectes. Et donc, quand j'ai vu la disparition des insectes, puis quand j'ai vu les statistiques, notamment en Allemagne, sur la raréfaction des espèces, là, d'un seul coup, ces questions-là, pour moi, sont devenues tangibles. Jusque-là, elles étaient un peu plus abstraites. Et là, je suis assez inquiet, parce que c'est tout le problème des écosystèmes, c'est-à-dire que toutes les espèces se tiennent les unes les autres. Donc, quand vous avez moins d'insectes, vous avez moins d'oiseaux, et ainsi de suite. Quand vous avez moins de pollinisation. Donc, je trouve que, au fond, dans cette question climatique, c'est sans doute la question de la raréfaction des espèces qui me paraît la plus grave et qui est montée un peu plus tard que les autres questions. On a plus été sensible à l'effet de serre, à l'augmentation des troubles climatiques, mais peut-être moins à cela. Même, dernier point, par exemple, une espèce qui va disparaître ou qui est vraiment atteinte, c'est le ver de terre. Alors vous me direz, le ver de terre, c'est pas grand-chose.
Ah non,
de terre, d'abord, je vous signale que l'ensemble des vers de terre, ça pèse 5 fois le poids des humains déjà. Hein, c'est quand même important, les vers de terre. Et ces vers de terre, on dit que un gramme, enfin, du moins un centimètre cube de terre cultivable dans les pays tempérés passe tous les 3 ans par l'estomac d'un ver de terre. Donc c'est eux qui assurent la fertilité de nos sols. Et Darwin, ça a été son dernier livre son dernier livre est consacré aux vers de terre. D'ailleurs, on lui a demandé, ça c'est une blague, mais on lui a demandé, mais pourquoi vous vous intéressez aux vers de terre? Il a dit, il est normal que je prenne connaissance de mes prochains compagnons.
Alexa Soyeux, j'ai choisi cet extrait avec Pablo Servigne à dessein, puisque c'est notamment, je crois, la lecture de son livre « Comment tout peut s'effondrer » qui vous a plongé dans ces questions. D'abord avec un sentiment d'impuissance et de déprime, puis avec le désir d'agir, ou en tout cas, d'abord de comprendre. Vous avez ressenti une espèce de soif de savoir, en fait.
Oui, donc c'est vrai que c'était un des déclics, le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Parmi d'autres, il y a eu une continuité de petits déclics qui m'ont permis de sortir d'un état un peu d'endormissement, on va dire, dans lequel je semblais plonger comme beaucoup d'autres personnes. Et j'ai ouvert les yeux sur la réalité des problèmes climatiques d'abord, écologique, et au fur et à mesure j'ai fait le lien entre le système économique dans lequel on vit tous, les problèmes de justice sociale et bien d'autres paramètres qui font que aujourd'hui j'en suis arrivée à je comprends que le paramètre climatique n'est qu'une des faces de notre problème. Et en réalité, on a un problème qui est bien plus large que ça, qui est qu'on doit changer notre rapport au monde tout entièrement. Et c'est aussi pour ça que se concentrer uniquement sur la décarbonation de nos économies, c'est se mettre des œillères, parce qu'on peut très bien arriver à une France peut-être neutre en carbone en 2050, mais tout en ayant maintenu un système social complètement inégalitaire et qui serait pas forcément souhaitable. Donc c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut avoir une vision beaucoup plus systémique dans notre analyse, et comprendre que l'écologie, ce n'est pas simplement avoir une vision environnementaliste des choses, mais comprendre que ça englobe tout type de relations, tous les liens sociaux, et qu'il faut essayer de lutter d'abord contre le principe de domination, d'exploitation, aussi bien des ressources, des humains, des non-humains.
Alors, André Comte-Sponville, sous votre plume, on retrouve très souvent le mot « agir ». Vous écrivez notamment « Mieux vaut agir que trembler », en l'occurrence face à cette catastrophe climatique. Qu'est-ce que ça veut dire « agir » quand on voit par exemple ce qui s'est passé à Madrid il y a quelques jours, la COP25, qui s'est terminée par rien, en fait, un échec total, alors qu'on vit, on voit aujourd'hui très concrètement les conséquences de ce dérèglement climatique, et qu'il y a même des pays parmi ceux qui bloquent qui sont touchés de plein fouet. On pense à l'Australie, on pense au Brésil. Qu'est-ce que ça veut dire agir dans ces conditions face à une telle question?
Ben, ça veut dire exactement faire ce qu'on n'a pas fait à Madrid. Autrement dit, il y a des décisions à prendre. Ce que je voulais dire, c'est que il s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, hein, pour reprendre le titre de votre émission. Ça, c'est une question de tempérament. Alors, les uns sont pessimistes, les autres optimistes. Moi, d'ailleurs, je suis plutôt pessimiste. Je pense que les choses ne vont pas s'arranger, qu'on va tous mourir, hein. C'est quand même une raison d'être pessimiste assez grande. Non, la bonne formule pour moi, c'est celle du communiste Gramsci, qui dans les geôles de Mussolini écrivait dans son cahier, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Pessimiste de l'intelligence, parce qu'il faut voir les choses comme elles sont, au fond, ce que disait Alexia, et à tout prendre. Mieux vaut les noircir un peu que les enjoliver, parce qu'on sera plus vigilant, plus prudent peut-être, mais optimiste de la volonté, parce que si on veut pouvoir changer les choses, encore faut-il croire que c'est possible. Et c'est pourquoi il s'agit moins, pour le coup, d'optimisme que enthousiasme, disait Alexia, ça me paraît un mot un peu fort. Moi, je dirais confiance. Mais on ne peut avoir confiance que dans la mesure où on fait ce qui dépend de nous, comme disaient les stoïciens. Et je constate, comme vous, que pour l'instant, on ne le fait pas. Mais reconnaissons que les décisions à prendre sont extrêmement difficiles. Je prends juste un exemple. Je suis certain qu'on n'arrivera pas à réduire de façon importante la consommation de pétrole sans augmenter le prix de l'essence et du fioul. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Alors évidemment, tout le monde se dit, oui, mais il faut une politique écologique et sociale, les deux vont ensemble, c'est facile à dire.
Fin du
mais
mois,
en pratique,
fin du monde.
Le plus souvent, c'est faux. Parce que la politique sociale, ça veut dire qu'on va augmenter le niveau de vie des plus pauvres, et je suis pour comme tout le monde. Mais ça veut dire qu'ils vont consommer davantage d'un point de vue écologique, ce n'est pas bon. Donc arrêtons de croire qu'on va résoudre les problèmes sans difficulté, sans souffrance. Et donc je dirais à l'excuse de nos hommes politiques, ce qu'on leur demande est d'autant plus difficile que foncièrement on ne veut pas la chose. On veut une augmentation du niveau de vie et pour de très bonnes raisons. Et l'écologie supposerait au contraire une baisse du niveau de vie. J'ajouterais, parce que c'est un point important, que nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. Parce qu'au fond, dans la Bible, il est écrit « Croissez et multipliez-vous ». C'est ce qu'on a fait. Et patatras, on arrive à une catastrophe qui est liée quand même pour une bonne part, je parle sous le contrôle d'Hervé Le Bras, à l'augmentation de la population. Finalement, je crois qu'il y a deux causes principales aux problèmes écologiques et climatiques auxquels nous sommes confrontés. Un, l'augmentation de la population. On était 1 milliard au début du XXe siècle, on annonce 10 milliards ou 9 milliards et demi en 2050. Deux, l'augmentation du niveau de vie. Savez-vous comment a évolué le niveau de vie moyen à l'échelle de la planète entre Jules César et Louis XIV? Les économistes me disent qu'il est resté à peu près constant. Il y a eu de la croissance, parce que la population augmentait, mais le niveau de vie individuel moyen est resté à peu près constant. Savez-vous comment il a évolué entre Louis XIV et aujourd'hui? Les économistes me disent, en gros, il a été multiplié par 20. Et donc la population a été multipliée par 10, la consommation par 20, ça veut dire que ça a été multiplié par 200. Et donc en une journée aujourd'hui, la planète consomme autant de produits qu'en 200 jours sous Louis XIV, si vous voulez. Or, pourquoi avons-nous fait ça? Pas du tout par égoïsme, mais parce que chacun a envie que ses enfants vivent le mieux possible, que ses enfants aient à manger, que ses enfants ne meurent pas de froid. Et c'est très bien, cette chose. D'autant que l'augmentation de la démographie, c'est pas du tout parce qu'on ferait des enfants sautement, absurdement. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants dans le monde qu'aujourd'hui. Jamais depuis 200 000 ans. La vraie cause du problème, c'est que nos enfants ne meurent plus en bas âge. On va quand même pas s'en lamenter, le regretter ou se le reprocher. Et donc l'augmentation du niveau de vie, il n'y a pas lieu de se reprocher, parce que la seule façon de combattre la misère, c'est en effet d'augmenter les richesses. Alors quitte à les répartir si on peut plus équitablement qu'aujourd'hui, là-dessus on est d'accord. Et donc ni l'augmentation du niveau de vie, ni l'augmentation de la population ne relève de je ne sais quelle perversité humaine. Il est normal que chacun essaye de vivre le mieux possible et surtout de faire que ses enfants vivent le mieux possible. Il est normal qu'on essaye de faire que nos enfants ne meurent plus en bas âge, sauf que la conjonction de ces deux désirs légitimes aboutit à une catastrophe écologique à laquelle nous sommes confrontés. Et donc je termine en deux mots. Il faut donc changer notre mode de croissance, notre mode de développement. La décroissance, malheureusement, me paraît pour l'instant impossible, tant que la population continue à croître, mais le développement durable est évidemment la seule solution envisageable aujourd'hui.
Mais j'ai tout essayé, je fais semblant de croire.
France Culture.
Et je reviens de loin, et mon soleil est noir.
Le temps du débat.
Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire.
Chloé Cambrelin.
Je reviens fatiguée.
Est-il déraisonnable d'être optimiste? C'est la question du soir. Dans le temps du débat, vous avez reconnu Barbara, bien sûr, et le soleil est noir. Alexia Soyeux, vous vouliez réagir à ce que disait André Comte-Sponville.
Oui, et je voulais aussi juste revenir sur la COP. En fait, la situation qui s'est passée à la COP, comme dans les COP précédentes, c'est assez navrant, mais en fait, c'est l'inverse qui aurait été même étonnant, qu'on trouve des solutions et qu'on avance tous dans le même sens, parce que là-bas, dans les COP, il n'y a pas de chef qui décide. Donc, les pays arrivent, chacun avec leur sujet à défendre, et doivent se mettre d'accord à l'unanimité. sans personne pour arbitrer. Donc du coup, à la fin, on arrive à un accord à minima qui est mou et qui n'engage quasiment à rien. Et ce, malgré le fait que tout le monde est bien au courant de ce qu'il faudrait faire pour réduire les émissions, réduire les risques, etc. Ce qu'il faudrait faire, c'est décroître. En fait, il n'y a pas d'autre solution que de faire décroître les flux de matière, les flux de ressources qu'on utilise, etc. Et qu'on n'aime pas le terme de décroissance, je peux le comprendre, mais en réalité, c'est la seule chose que l'on puisse faire pour améliorer ou limiter le problème. Et je voulais juste réagir sur le mot de l'expression de développement durable, parce que il est aujourd'hui beaucoup trop tard pour faire du développement durable. En fait, on n'a pas trouvé de solution pour découpler les émissions de CO2 et le PIB. Donc en fait, on ne sait pas faire de la croissance sans abîmer encore plus notre environnement, notre planète. Donc voilà, j'en reviens à... C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de solution, en fait. Parce que notre monde est basé sur un système de croissance qui est un dogme, une religion même, partagée largement par l'ensemble des dirigeants de la planète. Et on ne peut pas préserver, entre guillemets, l'environnement sans aller contre ce dogme.
Hervé Le Braz, là-dessus, justement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que c'est vrai que ce qu'on appelle le progrès, au fond, la technique, la science, c'est ce qui nous a permis d'améliorer notre situation telle que le décrivait tout à l'heure André Comte-Sponville. Et aujourd'hui, la décroissance peut être envisagée comme un programme.
Non, vous avez raison. Justement, c'est le mot progrès que je voulais, comme André Comte-Sponville a été un excellent démographe, je vais tenter d'être un peu philosophe. et il faut dire que... cette croissance économique et démographique est effectivement récente. Moi, je la daterais d'un peu après Louis XIV. Au fond, c'est surtout à partir de la première moitié du XVIIIe siècle qu'elle est apparue. Et en même temps, est apparue l'idée de progrès. C'est qui va être, au fond, illustré par les textes de Condorcet. C'est une nouveauté absolue dans l'histoire humaine, l'idée de progrès. Et donc, on a cette idée de progrès. Et vous l'avez dit, le progrès, c'est quand même quelque chose, quand on est un scientifique, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment très intéressant, parce qu'on apprend à mieux connaître la nature. Le problème, c'est comment orienter le progrès vers ce que nous dit Alexia. Et ça, c'est une question qui est extrêmement difficile. Alors, la question de la... Revenons quand même un instant sur la question de la population, c'est peut-être là je vais apporter une bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'on est en cours de stabilisation. Le taux de croissance de la population mondiale en 1970 était de 2,1% par an, c'est doublement tous les 30 ans. Il est tombé à 1%, si on prolonge la courbe, il sera à 0%, donc stabilisation puis décroissance vers 2065. Donc déjà, ça va un petit peu mieux. Qu'est-ce qui, au fond, est encore en croissance du côté de la population? C'est les plus pauvres. C'est, en fait, très très peu de zones. C'est la zone sahélienne, ce qui est quand même inquiétant, parce que c'est la zone où se passe le plus de troubles. Et puis, un petit peu, la zone afghane, pakistanaise, là aussi, c'est pas très rassurant. Donc, désormais, la croissance démographique va être une question politique. C'est-à-dire, c'est dans les pays qui ont, au fond, qui sont victimes de troubles importants, que la population s'accroît. Maintenant, pratiquement dans tous les autres, la fécondité est passée au-dessous de 2 enfants, que ça soit au Brésil, que ça soit en Chine, en Inde, elle est en train d'arriver à 2 enfants. Et puis il y a 7 enfants au Niger. Et au Niger, comme vous le savez, il y a Boko Haram, il y a un certain nombre, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais Al-Qaïda au Maghreb et ainsi de suite.
Oui, on a vu encore.
Donc on est en face d'un problème. Si on veut changer le monde, on aura aussi un problème politique qui est de maîtrise des mouvements révolutionnaires ou contestataires dans les pays les plus pauvres.
André Comte-Sponville.
Oui, une bonne nouvelle que j'ai lue dans la presse, je ne sais pas si Hervé Le Braz me le confirmera, mais j'ai lu dans un journal sérieux que les démographes ont calculé que le dernier Japonais mourra dans 700 ans. parce que leur taux de reproduction étant inférieur à 2,1 que le
ça
taux...
Ça prolonge...
On peut prévoir des choses comme ça, Hervé Lebrun.
C'est une bonne nouvelle. Non, mais au taux actuel, évidemment, rien ne garantit que le taux restera ce qu'il est. Mais ça veut dire que la surpopulation n'est pas une donnée indéfinie.
Ah, et
donc,
c'est ce
Hervé Lebrun, arrêtons voilà. de dire, un, on arrive à une phase de stabilisation... J'ajoute, il n'est pas impossible qu'un jour, et fort heureusement, la population réduise, parce que il est plus confortable de vivre bien à 1 ou 2 milliards d'habitants qu'à 10 milliards d'habitants. Non, je ne vois pas trop les choses. La bonne nouvelle, c'est que le dernier Japonais mourra dans 700 ans, le dernier Espagnol dans un peu plus, mais pas beaucoup, etc. Bon. Mauvaise nouvelle, on annonce donc 9 milliards et demi ou 10 milliards d'humains vers 2050, dont la moitié en Afrique. Et ça, pour gérer ça, politiquement, ça pose des problèmes concernant les flux migratoires qui sont quand même très inquiétants.
Oui.
Enfin, on en parlera après. Mais
oui.
Je voulais pour terminer, je voulais dire, je pense qu'Alexia a raison, Hervé Lebrun aussi. Le problème, c'est que leurs deux vérités sont difficiles à articuler l'une avec l'autre. Parce que Alexia a raison de dire que la décroissance serait la meilleure solution. Et même en vérité, la seule, si on entend par solution, c'est l'indécence du mot, ce qui résout le problème, ce qui fait disparaître le problème en tant que tel. Et donc oui, je suis d'accord avec ça, sauf que ce que je crois pouvoir dire, c'est que cette décroissance n'aura pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'elle serait économiquement destructrice. Au lieu de produire plus de richesses, on produirait moins de richesses. Et à l'expliquer aux pays du tiers-monde où des gens meurent encore de faim, où des gens sont mal logés, mal soignés, qui doivent réduire leur niveau de vie. Et aller même le proposer aux deux tiers des Français qui ne vivent pas si bien que ça. Donc économiquement, la décroissance serait destructrice. Socialement, elle serait délétère. Et politiquement, elle serait suicidaire. Aucun parti politique ne gagnera les élections dans nos pays en promettant une baisse drastique du niveau de vie pendant 15 ans, si vous voulez. Et donc, ce que je crois, c'est que malheureusement, la décroissance n'aura pas lieu. Ça serait la meilleure solution. Elle n'aura pas lieu, du moins, je le disais tout à l'heure, tant que la population continue de croître. En 2050, quand la population sera stabilisée, on pourra parler sérieusement de décroissance, me semble-t-il. Aujourd'hui, non. Et donc, malheureusement, le développement durable, me semble-t-il, est la seule solution. Ce qui suppose, et je reviens à Hervé Lebrun, du progrès. Parce que ce que je crois, c'est que pour sauver la planète, comme on dit un peu niaisement, nous avons besoin non pas de moins de science ou de moins de technique. Nous avons besoin de plus de science, de plus de technique. Et c'est là où le thème du progrès est un progrès très important, parce que les partisans de la décroissance nous disent souvent il faut non pas ralentir le train, mais changer de train. Mais le train en question, c'est le train du progrès, c'est le train des lumières. Je n'ai pas du tout envie d'en descendre. Et donc la seule façon de sauver, sinon la planète, du moins la biosphère et les conditions de vie de nos enfants, c'est en effet de poursuivre le développement économique, du moins tant que la population continue de croître, mais en changeant radicalement ce type de développement. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin de davantage de science, davantage de technique et non pas de moins.
Nous avons commencé en évoquant ce décalage entre les statistiques et le ressenti. On va bientôt arriver à la fin de cette émission, on en approche. Je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron. C'était le 21 novembre dernier devant des étudiants à Amiens.
Moi, je peux pas vous dire, je crois dans l'avenir, et vous avoir un discours vachement déprimé. Non mais, l'image, il y a un côté autoréalisateur. Et je le parle dans notre société plus généralement. On a l'impression, si on s'écoute collectivement, si on branche la radio, qu'on allume la télé, que tout est terrible. Et en ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même, dans les commentaires qu'on a en permanence. On a des difficultés, on les affronte. Est-ce qu'elles sont impossibles à affronter? Pas du tout. Est-ce que les choses vont moins bien qu'il y a 20 ans dans tous les sujets? Faux.
Si on allume la télé ou la radio, dit le président de la République, et encore, c'était fin novembre, est-ce que... vraiment, de votre point de vue, André Comte-Sponville, on peut attribuer une partie de ce pessimisme français à la production médiatique. Est-ce que ça n'est pas un peu facile ?
Oui, vous savez, il y a deux têtes de Turc, notamment dans le monde de l'entreprise, les journalistes, il y en a trois. Les journalistes, les politiques, les enseignants. Bon, une fois qu'on a dit du mal des trois, on peut commencer à réfléchir aux problèmes de fond. Non, bien sûr, les médias, qui sont ce qu'ils sont, mais reflètent le malaise davantage qu'ils ne le causent. Simplement, j'évoquais le fait au début de l'émission qu'en France, on demande beaucoup à l'État, voire tout à l'État. Le problème, c'est que la mondialisation réduit l'efficience de l'État, parce que les problèmes se posent maintenant à l'échelle de la planète et non plus à l'échelle de la nation. Et donc, vous voyez, le piège dans lequel les Français sont pris, c'est que traditionnellement, ils demandent tout à l'État, et l'État peut de moins en moins. La réaction, c'est d'en conclure que nos politiques sont nulles. Je crois que c'est un mauvais diagnostic. La bonne leçon tirée, c'est que la mondialisation suppose une politique à l'échelle du monde. Et c'est vrai spécialement s'agissant évidemment des problèmes écologiques, des problèmes de la planète.
Hervé Le Braz, il est dit parfois par les commentateurs justement qu'Emmanuel Macron est le président de la France qui va bien. Ne faut-il pas reconnaître une fois pour toutes que voilà, une partie de la France ne va pas bien? Est-ce que ça n'est pas aussi la négation de leurs souffrances et de leurs inquiétudes qui met en colère les Français, une partie d'entre eux en tout cas?
Oui, si on entre alors à l'intérieur de la France, et là cette fois-ci il faut faire de la géographie, la France qui a voté Macron est une France, pour reprendre la question de l'optimisme et du pessimisme, c'est une France qui va plutôt bien et c'est une France qui a confiance dans l'avenir. Et la France qui a voté Le Pen, parce que la carte de l'un est le contraire de la carte de l'autre dès le premier tour, c'est une France qui va mal et on peut le montrer. Alors pourquoi une France va bien et une France va mal? Si on remonte, on va retomber sur une des remarques d'André Comte-Sponville, c'est que c'est la France qui a été le plus étatisée qui va le plus mal. Et ça, je peux vous le montrer, je dirais, région
c'est-à-dire
par région.
C'est-à-dire la France la plus étatisée.
La France la plus étatisée, c'est une France qui a été particulièrement d'ailleurs une France républicaine, laïque, c'est une grande bande nord-est du territoire, sauf l'Alsace, c'est toute la frange méditerranéenne, et puis c'est une partie de la vallée de la Garonne. C'est là que vous trouvez les plus faibles votes Macron et les plus forts votes du Front National. Et c'est une France France qui, par exemple, a perdu très vite ses racines rurales. Alors que la France de l'Ouest, ou une grande partie du Sud-Ouest, est une France qui est longtemps restée rurale et qui a progressé dans les années récentes. Elle est passée des paysans aux ouvriers. Par exemple, le nombre d'ouvriers a augmenté dans l'Ouest jusque dans les années 2000, puis d'ouvriers à employés, donc où l'ascension sociale continuait. Et puis, il y a cette France un peu désespérée. On était déjà ouvriers dans les années 30, puis les enfants ont été ouvriers, puis ils sont chômeurs dans les années 90 et 100.
Que pensez-vous, Alexia Soyeux, par exemple, que pensez-vous des travaux sur l'économie du bonheur? Faut-il prendre en compte aujourd'hui plus de critères dans nos indicateurs économiques?
Il faut changer d'indicateur, en tout cas, ça c'est sûr. L'indicateur du PIB auquel on se réfère, même s'il est critiqué et qu'on essaie de le faire évoluer, il reste toujours l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Enfin, voilà, c'est un indicateur de croissance. Donc oui, je pense qu'évidemment, il faut faire évoluer ça et intégrer... comment on contribue à ne pas détériorer encore plus le monde et à créer peut-être de la joie ou en tout cas une façon de vivre de façon plus égalitaire et plus juste.
André Comte-Sponville là-dessus, sur comment on mesure, est-ce qu'il faut pas changer aussi de thermomètre, quoi?
Oui, mais c'est plus difficile de mesurer un taux de bonheur qu'un taux économique, évidemment. Mais au demeurant, ce que les économistes et les sociologues nous apprennent, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, on le savait depuis longtemps, mais qu'en revanche, la misère fait le malheur. Et là, quand on demande une bonne façon de savoir si les gens sont heureux, c'est de leur poser la question. Et quand on interroge quelques dizaines de milliers de gens, on découvre qu'en effet, leur bonheur dépend peu de leur niveau de vie, sauf ceux qui sont dans la misère. Et la misère suffit à faire le malheur. Mais surtout, il y a pire que ça. C'est que ce qui fait le bonheur, ça n'est pas un niveau donné de revenus, c'est une augmentation de ce niveau de revenu. Autrement dit, on est plus heureux quand on gagne 3 000 euros par mois si on en gagnait 2 000 l'année précédente que si on gagne 4 000 euros par mois mais qu'on gagnait déjà 4 000 euros par mois l'année précédente. Et donc la logique, c'est qu'on en veut toujours plus. Deuxième critère d'augmentation, ce qui fait le bonheur, c'est pas un niveau donné de revenu, c'est le fait d'être plus riche que son voisin ou son beau-frère. Et donc une richesse comparée. Et donc à nouveau, on en veut toujours plus. Et donc il y a une donnée anthropologique qui nous amène à la catastrophe. C'est pas la perversion des politiques, c'est pas la sottise des journalistes ou la faiblesse des enseignants. C'est que en vouloir toujours plus, c'est une donnée anthropologique forte. Il va donc falloir changer quelque chose à ce mode de développement, mais on va pas inventer une nouvelle humanité. Et donc le problème est un problème de fond qui supposerait une réflexion, une concentration des débats beaucoup plus importante que ceux qui ont actuellement cours. Entre nous deux, c'est quand même plus important que de savoir si on doit arrêter de travailler à 62 ou à 64 ans.
Merci en tout cas d'être venu débattre avec nous en ce 24 décembre. Hervé Lebras, Se sentir mal dans une France qui va bien, la société paradoxale aux éditions de l'Aube. André Comte-Sponville, Contre la peur et sans autre propos chez Albin Michel, Alexia Soyeux, vos podcasts, vos entretiens sur le site Présage. Tous les liens évidemment sur la page de l'émission Le Temps du Débat, franceculture.fr. Nous vous recommandons également chaudement la lecture de Papier, la revue de France Culture, dont le dernier numéro en kiosque et librairie comporte un passionnant dossier intitulé La fin du monde, non merci. C'était Le Temps du Débat. Rémi Baille, Louise André, Hugo Boursier, Fanny Richet, Cyril Marchand, à la technique ce soir Adèle Caglar, à la réalisation Alexandre Manzanares.